Okay.
Bonsoir. Alors, je vous passe des photocopies. S'il vous plaît, Madame Sebag, elle est repartie elle... Ils sont venus simplement vous dire bonjour.
Oui, bonjour. Oh. En fait, ils ont une Elena qui a
parlé. Ah, d'accord. Ok. Alors, la question que nous allons voir, c'est ce que nous allons voir à la fin du passage de Maïmonide. Donc, je vous parle, prenez donc la photocopie. C'est à la fin d'Alachot Megillah de Rambam. Donc, on va faire tout le corps du texte. Le corps du texte là. Pour nous mettre dans le sujet. Tu as un texte, monsieur ?
Ouais.
C'est bon ?
C'est bon.
Alors, donc à Pourim, il y a plusieurs obligations. Donc, le jour de Pourim, il y a plusieurs obligations spécifiques. Et nous allons voir certaines de ces obligations. Il y a l'obligation d'écouter la Megillah le soir et le jour. Donc ça a été traité plus haut par Rambam. Maintenant, nous sommes donc à la fin du deuxième chapitre d'Alachot Megillah, en haut. Vous voyez, c'est l'Alacha Yudalet. Soudat Purim Shasa Balayla, Lo Yatsa Yedechobato. Donc on a une obligation de faire un festin à Purim. Et Rambam nous dit que si on a fait le festin la nuit, on n'est pas quitte de son obligation. Donc le repas de Pourim est tout à fait spécifique de la fête de Pourim, tout à fait spécifique en cela que ce repas n'est pas la nuit. En général, les repas de fête, c'est à l'entrée de la fête. C'est-à-dire que Shabbat, le repas de vendredi soir, on rentre dans Shabbat par le repas de vendredi soir.
Surtout qu'il y a le kiddush, le vrai kiddush, de Oraita.
Comment ?
Le vendredi soir, on fait le kiddush d'Oraita.
Oui, par exemple, voilà. C'est ça. Mais à Pourim, le repas, c'est le jour. Et si, par exemple, on a fait le festin, par exemple, cette année, c'est dimanche, n'est-ce pas ? Donc, si on fait samedi soir le festin, on n'est pas quitte de son obligation. C'est dimanche, dans la journée de dimanche. Et si, par exemple, pendant la journée de dimanche, si on fait trop tard et que la majorité du repas se trouve la nuit du dimanche soir, on n'est pas quitte de son obligation. C'est la journée. Ce qui est tout à fait étonnant. Oui. Ce qui est tout à fait étonnant, parce qu'a priori, c'est dans l'entrée de la journée qu'on fait le repas. Là, c'est le jour. Bien. La Gemara l'apprend dans Maseret Megillah, parce qu'on l'apprend du verset. C'est Yemé Mishte Vesimcha. C'est des jours de festin et de joie. C'est le jour. Regardons la Lacha Tetva. Ketsad Chovat Seudazo. Comment est l'obligation de ce repas? Chez Yochal Bassar Vitaken Seuda Naa Kefi Asher Timtsa Yado Veshote Yain Ad Sheishtaker Viradem Beshichut. Comment c'est l'obligation de ce repas? Donc Rambam, donc ici, nous sommes dans le livre d'Alacha. C'est un livre d'Alacha. C'est le livre d'Alacha de Rambam. Ketsad Chovat Seuda Zo. Comment c'est l'obligation de ce repas, qu'il mange de la viande, qu'il organise un beau festin selon ses moyens, il boit du vin jusqu'à ce qu'il s'enivre et qu'il sombre dans l'ivresse. c'est halakhique. C'est pas optionnel. C'est pas optionnel. C'est Rambam. Rambam. Donc ça fait partie. Donc donc il y a quelque chose de très important ici. C'est que c'est pas la soulerie. Si vous voulez, les souleries, ça se fait le soir. Ouais, je sais pas, la soulerie, c'est la personne, elle n'arrive pas à dormir, elle est angoissée, elle va avec des potes faire la tournée des bistrots, et à la fin, on ramène la personne dans son coma éthylique, dans son pieu. Ça, c'est pour les connaisseurs, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'écho dans la salle. Ils sont tous propres sur eux. Hein, c'est veuillez faire votre judaïsme derrière les giaphones avec vous. c'est toujours propre sur soi. Non, ça n'a pas d'écho ce que je raconte. Bon, enfin, passons. Mais
aussi.
Comment?
Aussi.
Non, mais des gens qui vont se saouler la... Excusez-moi l'expression, se saouler la gueule... oui, enfin, vous dites ça comme vous voulez, en général, c'est le soir. C'est vraiment, c'est les pros qui, à 8h du matin, sont... ça, c'est vraiment, c'est notre madriga, ça, c'est vraiment... Il y en a, c'est vraiment les pros, ça, c'est...
On parle quand même de... Dans Pirkei Avot, on parle de... Yain Shel Tzahorayim, que ça, c'est pas terrible.
Bon, d'accord, on est à pourrir, je veux dire, ce qui n'est pas terrible, on s'en fout, je veux dire, on est par-delà le bien et le mal, je veux dire, ici, on essaie, disons, de voir que s'il y a une obligation, comment ? S'il y a une obligation de s'enivrer, cette obligation est le jour. C'est pas le un jour par an, on pète les plombs, c'est pas ça. C'est, on pourrait dire, c'est une avoda, c'est un service de Dieu de dépasser certaines limites qu'il faut définir. Mais si c'est le jour, c'est pas un laisser-aller. C'est pas un laisser-aller, c'est pas un jour de laisser-aller. C'est un jour de service de Dieu. C'est un jour où on boit. Ce qui est paradoxal, le jour, c'est une dimension de réflexion. La nuit, on dort, ouais, enfin la plupart des gens. Oui, c'est ça. Donc le jour, c'est il y a l'activité diurne et nocturne. L'activité diurne, c'est l'activité, on est actif. C'est une dimension active de boire. C'est pas à laisser aller. À définir. Il faut définir. Ça, c'est fondamental. Alakha suivante. Vechen chayav adam lishloar shte manot shel basar o shne mine tafshil o shne mine ochrim lachavero shenemar o mishloar manot ish lareu shte manot ishechad. De la même manière, qu'il y a l'obligation de faire la Seouda, de la même manière, il y a une obligation d'envoyer deux parts de viande ou deux sortes d'aliments, deux plats ou deux sortes d'aliments à son ami. Comme c'est écrit dans le verset, Mishloah Manot Ishlaveu, envoyer des plats, un homme à son ami. Donc l'obligation stricte, shte manot l'ishtechad. Donc deux parts de choses comestibles à un ami. Voilà. Vechol amarbe lishloar la re'im meshubar. Toute personne qui en rajoute d'envoyer à des amis, il est complimenté. Voilà. Donc ça, on fait ça. Donc on envoie des bonnes choses à manger à ses amis. Mais l'obligation stricte, c'est l'obligation minimale, c'est à un ami. Voilà. Vimello, maintenant, s'il est pauvre, comment il fait? Il n'a pas de quoi envoyer même une barre de nougat, une canette de coca à un copain, qu'est-ce qu'il fait? Vimenlo, Machrif im Chavero, Zecho Lear Laze Sudato, Vezecho Lear Laze Sudato, Kede le Kayem ou Mishloar Manotish la Reu. Il échange son repas de Pourim avec son copain. L'un, ce qu'il a préparé pour lui, il donne à son copain, et son copain lui envoie ce qu'il a préparé à lui. Ça sert à quoi, ça? Ça fait un peu formaliste, quoi.
C'est le partage. Hein.
Comment?
C'est la notion de partage.
C'est pas un même partage, si c'est un échange, pas, c'est pas ouais. Un partage.
Non, si je te donne chez la mitzvah, tu me donnes chez la mitzvah, c'est tout.
Quoi?
Je te donne chez la mitzvah, tu me donnes chez la mitzvah. Chez quand on a fait la mitzvah? Ça paraît logique, quoi.
C'est débile, ouais.
Non, c'est pas...
Non, mais... Non, ce que je veux dire, j'ai fait la mitzvah. Mais cette mitzvah, elle veut bien dire quelque chose. Où est-ce qu'il y a... si moi, je donne, je sais pas, moi, un bon gâteau avec une bonne bouteille de pinard à Raphaël, il est content. Il pense à moi, machin... Mais là, je donne mon repas, il me donne son repas. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a. Mishlo manot ishlare ou c'est quoi? C'est pourquoi les chachamim de cette génération ont-ils institué Mishlo manot ishlare ou c'est quoi? C'est que on voit que c'est une manière de perpétuer le miracle qui s'est passé. C'est que dans l'adversité extrême, les gens ont retrouvé une proximité. En général, on est tous un peu dans notre quant à soi, chacun pour soi et que le meilleur gagne. Mais dans l'adversité, ils ont senti qu'ils étaient trop isolés les uns avec les autres. Il y a une grande solidarité qui s'est perçue et le miracle est venu de cette grande personne, de cette grande solidarité. Donc pour perpétuer ce qui s'est passé à Pourim, les sages ont institué Mishloar Manot Ishlareu, c'est-à-dire d'entretenir cette amitié, cette proximité, d'envoyer à des amis une attention, porter son attention à son copain et par quelque chose de comestible, c'est-à-dire qu'on peut manger le jour même, ça apporte à la joie, parce que si t'es tout seul dans ton coin. C'est tristounet. Le fait de faire participer d'autres personnes à ta joie, c'est là où la joie s'exprime, le fait de partager avec d'autres personnes. Mais là, tu as dit le partage, moi je vois pas tellement le partage.
Ben, quand vous allez me donner un gâteau avec du vin, je vais être content. Et ça va me donner l'envie de vous donner mon repas, puisque j'ai rien d'autre.
Oui, mais là, c'est un coup préparé d'avance. Bon, tu sais, là, moi, j'ai préparé pour Pourim, t'as préparé pour Pourim, mais j'ai vraiment pas de quoi faire Mishloar Manot Ishlareu. Bon, tu vois, moi, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Je te passe mon truc, tu passes ton truc. Ça fait vraiment, légaliste, quoi.
Mais c'est comme de...
Je fais la mitzvah, bon, c'est bon.
C'est comme si on mangeait ensemble, quoi.
C'est quoi?
D'une certaine manière, c'est comme si on mangeait ensemble.
Ils disent pas qu'ils mangent ensemble.
Non, c'est comme si. Bah, c'est vous qui avez dit c'est pour perpétuer l'unité qui a amené au mirage. Bah, alors on montre qu'on est lié par un échange de repas. Donc c'est-à-dire chacun mange le repas de l'autre, c'est comme si on mangeait ensemble.
Ouais, c'est comme si, c'est comme les gosses. On joue à comme si, quoi. On joue. On dit que je suis le cow-boy. Et on dit, toi t'es l'Indien, on dit, hein. Alors, et que je suis là, tu vois, avec la diligence, on dit.
On dit pas. Alors moi je suis le cow-boy et vous êtes l'Indien.
Comment?
On dit pas. Moi je suis le cow-boy, vous êtes l'Indien. Donc le cow-boy et l'Indien, ils mangent ensemble par le fait que chacun a le repas de l'autre. Mais on dit pas. C'est un fait.
Mais de toute façon, même quand...
C'est un échange culturel.
Mais même quand
non,
il...
Non, mais c'est... Même vraiment, quand... ça m'a toujours saoulé. Même quand non, ça veut dire... C'est bien que ça saoule à pourri, mais non, j'essaie de reprendre. Mishloah manot ishlareu. L'institution est d'entretenir une proximité entre nous. Il y a, par exemple, c'est comme ça que ça se fait. On réfléchit avant Pourim à qui on va envoyer. Justement, Mishloah, les Chachamim disent, c'est pas dans la Gemara, mais les commentateurs disent que c'est bien d'envoyer par un émissaire. Envoyer par un émissaire, ça montre une intentionnalité, que vraiment je veux t'envoyer, je prépare la chose, je l'ai préparée, c'est vraiment, c'est destiné à toi. Donc ça valorise une relation. Mais là, moi, mais j'ai rien, il est dans la dèche, et l'autre il est aussi dans la dèche. Alors moi j'ai préparé une boîte de thon à l'huile, j'ai acheté une khala chez Naouri, ouais, il y a ma khala et ma boîte de thon, et toi, t'as la même chose, oui. Bon, dis, alors, regarde, moi, j'ai pas pour Mishloah Manot. Alors, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Je te passe mon truc, tu me passes ton truc.
C'est nul. Comme de tirer la chaise de son ami et que lui tire la nôtre.
Comment?
C'est comme si je tirais la chaise pour mon ami qui s'asseye.
Ah bon, mais j'avais compris autre chose.
J'ai entendu la chaise.
Non, la vie, c'est la chaise.
La chaise. Ah,
j'ai entendu tirer la chaise.
Moi aussi.
La chaise. Ouais, alors.
Et sur la mienne. Alors, au final, ça changeait. J'aurais pu prendre la mienne, prendre ma chaise, il aurait pu prendre sa chaise. Mais parce qu'on l'a fait l'un pour l'autre, ça a une autre valeur.
Tant que.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas seulement l'alimentaire qui compte, c'est le geste qui compte. Donc, même si à la fin, ils mangent chacun le gâteau de Naouri et la boîte de thon qu'ils avaient. Ils ne mangent pas la leur, ils mangent celle de l'autre qui lui a donné.
Ils mangent ensemble.
Ils ne mangent pas ensemble.
Ils ne mangent pas ce qu'ils ont acheté pour eux. Ce qu'ils ont acheté pour eux, c'était pour le donner. Et ce qu'ils vont manger, c'était quelque chose qu'ils ont acheté donné. Pour moi, ça ne pose pas de problème.
Donc finalement, ils l'ont fait pour l'autre.
Oui. Voilà.
Mais l'intention, en fait.
Bon. Même si c'est exactement la même chose, même
j'avoue que ça dépasse un petit peu mon entendement. Vous avez l'air content, mais.
c'est pas choquant.
Comment?
Ça me choque pas, c'est vrai, ça me choque pas.
Ça vous choque pas?
Non, mais de toute façon, même entre quelqu'un qui a les moyens et qui ne reçoit rien en retour, en général, aujourd'hui, qui a besoin d'un paquet de gâteaux, quoi? C'est pas.
Moi? Ça me fait toujours gens. Plaisir.
Ah, mais c'est juste. La plupart des gens, ils s'en fichent en fait. On vient pas, si c'était à des pauvres, je comprends, mais là, c'est juste pour donner à quelqu'un.
C'est d'autre. Une attention, c'est une attention, c'est ça le truc. C'est pas que la personne n'a pas besoin. C'est une attention. La personne a tout ce qu'il faut, mais. On a toujours besoin d'attention, non? Moi, je regarde tous les jours le courrier. Même une facture, ça me fait plaisir.
Non.
Quand
vous êtes
bien seul,
alors.
J'ai reçu du courrier.
Je suis encore là.
J'existe, là.
J'ai reçu du courrier. Alors, on continue. La Lacha Tetzaïn. Alors, excusez-moi. Oui, Tetzaïn. Donc, troisième obligation. Vechayav. Les Khalek, les Aniyim, Beyom, Apurim. Troisième obligation, on a l'obligation de partager aux pauvres le jour de Pourim. En paron meshne Aniyim. Mais là, par contre, c'est pas moins de deux pauvres. C'est Matanot, la Aniyim, la Evyonim. Matanot, la Evyonim. C'est un pluriel des dons aux pauvres. Aux pauvres, c'est un pluriel. Mishloah Manot, Ish, Lare, Eou. D'envoyer des parts un homme à son ami, c'est un singulier, ou matanot la evyonim, et des dons aux pauvres au pluriel. Noten le kol echad matana achat, il donne à chaque pauvre un don. O maot, o mine tafshil, o mine ochlim. Il donne soit l'argent, soit un plat, soit des aliments. Alors, dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté de l'argent. C'est mieux pour un pauvre de l'argent. C'est pas comme Rambam. Hein. Ça, c'est Rambam. Dans le Shulchan Aruch, on dit qu'on donne de l'argent aux pauvres. Chez Nehemar, Matanot la Evyonim, Shete matanon le shnanim. Alors, evionim, en vérité, c'est plus que pauvre. Hein. Evion, il y a ani. Ani, c'est le pauvre. Et tu as le evion. C'est, on dit l'indigent. C'est plus que pauvre. Plus que pauvre. Alors ça, c'est très important parce que souvent, c'est le parent pauvre de Pourim. On ne fait pas attention à ça. Donner des choses à manger à des copains, souvent les gens font attention bien à ça. Mais donner à des pauvres, vraiment, on pense peu à ça. On pense peu à ça. Entre parenthèses, à côté de chez moi, il y a un monsieur qui s'occupe d'un resto du cœur pour des pauvres de la communauté, vraiment des SDF de la communauté. Si vous voulez, je peux collecter pour leur donner. Hein. C'est vraiment des gens que je vois. Il organise un repas pour une pour ces vraiment ce sont des gens très des SDF quoi de la communauté. Ça c'est vraiment la mitzvah. C'est vraiment la mitzvah. De leur donner à Pourim.
Et le mot que vous avez employé au début, quand vous avez traduit, c'est partager.
Oui, comme ça Rambam dit. Je reprends les mots. Regardez. Tetzain. Vechayav lechalek l'anim beyom apurim. De partager. Ven medak dekim bemaot pourim. On ne fait pas d'enquête le jour de Pourim. Quelqu'un, il est pauvre, on lui demande pas des preuves de son indigence. Et la kol apochet tiado liton notnim lo. Ça fait partie de la mitzvah que, en général, c'est très important, en général, il faut savoir qu'on ne fait pas la tzedaka si on donne à quelqu'un pour qui ce n'est pas justifié.
Parce que le reste du temps, on a le droit de demander des justifications.
Il faut. Il faut, on ne fait pas la mitzvah de tzedaka. Tu donnes de l'argent à quelqu'un, il va s'acheter une bouteille de pinard, t'as pas fait la mitzvah. T'as pas fait la mitzvah.
Quelqu'un qui tend la main.
Moi je donne pas.
Je
donne pas. Non. On ne fait pas la mitzvah si ce n'est pas à quelqu'un qui n'est pas véritablement dans le besoin. Quelqu'un est en tourloupe, tu n'as pas fait la mitzvah. Tu donnes à un organisme, et l'organisme, ça sert pour les bureaux, pour les secrétaires, pour les trucs, pour les machins, tu n'as pas fait aucune mitzvah. Tu n'as fait aucune mitzvah. La mitzvah, c'est de donner à quelqu'un qui a besoin. Et il faut vraiment savoir. Mais à Pourim, il n'y a pas cette exigence. C'est ça ce que Rambam nous dit. À Pourim, il n'y a pas cette exigence. Il y a une largesse, donc ça fait partie de la même institution de créer une proximité entre les différentes personnes de la communauté. Et cette solidarité, cette proximité, a été constitutive du miracle de Pourim. Miracle de Pourim. Continuons. Et justement, Maïmonide nous dit de manière absolument précise, Ven meshanim ma'ot pourim le tzedaka acheret. Et on ne change pas l'argent de pourim pour notre tzedaka parce que ça ne procède pas de la même mitzvah. C'est pas la tzedaka. C'est pas la tzedaka. Alors le Maharal développe cela que Matanon la Evionim, c'est donner la possibilité aux pauvres de faire le repas de Pourim. C'est ça la mitzvah. Il faut qu'il ait le jour de Pourim. Mais il peut avec ça, à la limite, s'il veut s'acheter des chaussettes avec, il a le droit. Donc c'est pour ça que c'est pour le repas de Pourim, mais on le laisse à la limite libre de faire ce qu'il veut. Mais fondamentalement, c'est pour le repas de Pourim. Et le repas de Pourim, c'est la dimension de pour reprendre la terminologie de Rambam, du Maharal, que qu'est-ce qui s'est passé à Pourim ? À Pourim, le peuple juif, chacun d'entre nous, a failli être massacré. Donc, pour glorifier Dieu, on vit. Pour glorifier Dieu, pour remercier Dieu, la mitzvah est de vivre. Mais de vivre, si on peut s'exprimer ainsi, de s'éclater. C'est pas simplement de manger pour vivre. Non, c'est d'exprimer qu'on est vivant. Et comme ça, on remercie à quel jour. Comment? En faisant un bon repas, en buvant, en s'éclatant. C'est ça la mitzvah. Donc il y a une dimension qui est une dimension de Olam Hazeh, de ce monde-ci. La tzedaka, dit le Maharal, c'est presque le contraire. La tzedaka, le pauvre, il n'a rien pour vivre. La mitzvah, c'est lui donner la possibilité de vivre. C'est de vivre presque, si vous voulez. Il n'avait rien pour vivre, je lui donne la possibilité de vivre. Lui donner la possibilité de vivre, c'est une dimension, dit le Maharal, d'Olam Haba. La vie est le lien qu'on a entre ce monde-ci et le monde futur. Tandis qu'à Pourim, c'est pas la tzedaka. À Pourim, c'est vivre dans ce monde-ci. C'est pas la dimension de tzedaka. Tzedaka, c'est si tu me donnes pas, je peux pas vivre. Alors je te donne pour que tu puisses vivre. C'est comme à Kajbro qui te donne la vie. Moi, je te donne la vie. Mais à Pourim, c'est pas je te donne la vie. À Pourim, je te donne la capacité de t'éclater. C'est autre chose. Donc c'est pour ça que Rambam nous dit El Moshani Maot Pourim, le tzedaka Akheret. On ne change pas l'argent de Pourim pour une autre tzedaka. C'est pas en vérité dans les lois de tzedaka. À la Chayut Zayin, Moutav la Adam le Arbot be Matanot Evionim, mais l'Arbot be Seudato Bishloa Manot le Reav. Sheen Sham Simcha Gedola Omefuara, et là le Samear Levaniim ve Yetomim val Manot ve Gerim. Me saméar lève à umlalim à elou domé la shrina, chenema, la chayot rouar shefalim, la chayot lève nifkaim. Ça, Rambam, et on ne parlera jamais assez du style poétique de Maïmonide. Je traduis, si vous voulez. Vous voulez. C'est bon, ça roule. Moutav le Adam. C'est mieux pour l'homme de multiplier dans les dons aux indigents, plutôt que de multiplier dans son repas de Pourim et plutôt que d'envoyer plein de parts de manger à ses amis. Shen sham simcha gdola me foira, parce qu'il n'y a pas de plus grande joie et plus magnifique que de réjouir le cœur des pauvres, des orphelins, des veuves et des étrangers. Shamesamea leva umlalim aelu, parce que la personne qui réjouit le cœur des malheureux ressemble à la présence divine à propos de laquelle on dit qu'il fait revivre le souffle des gens déprimés et qui fait revivre le cœur des brisés. Donc en vérité, donner de la joie à ceux au laisser pour compte, ça c'est vraiment la joie de Pourim. Ça c'est extraordinaire parce que c'est dans les halakhot. C'est dans les halakhot. Ça fait vraiment partie de la mitzvah de faire participer des gens laissés pour compte. Et moi je peux vous dire qu'il y a des gens laissés pour compte, on aimerait les laisser pour compte. Les gens qui sont mis de côté, souvent, quand on les connaît, on comprend qu'ils sont de côté. Non,
il y a des raisons, quoi.
Il y a des raisons, on n'a pas envie de... C'est pas forcément des gens qu'on a envie de fréquenter, quoi. Moi, je sais pas, il y a eu le mariage de ma fille il y a 2 mois. Il y a 2 mecs, ils ont tapé l'incruste. deux clochards juifs. Ils ont tapé l'incruste, mais je peux te dire, il y avait un... Un rayon sécuritaire autour, quoi. Non, ça veut dire ils sentent pas forcément bon, je veux dire, les mecs.
Oui, mais en même temps, c'est le fait d'être mis de côté qui entraîne ce type. C'est pas parce qu'ils étaient comme ça qu'ils ont été mis de côté, c'est le fait d'avoir été mis de côté qui entraîne leur délabrement, les pauvres. Enfin,
c'est vrai.
Leur marginalisation, elle les met en dehors de tout, quoi.
Évidemment, vous avez raison. Mais de les faire participer à la joie, il faut passer certaines limites qu'on aimerait bien laisser dans ces limites. On aimerait bien laisser dans ces limites. Mais Rambam dit, attention, là vraiment est la joie. Faire participer, il n'y a pas de plus grande joie que ça. Et souvent on ne pense pas à ça parce que ça...
Parce qu'on s'amuse bien déjà.
Comment ?
Bah déjà, si on offre des repas à ses amis et tout, on est déjà dans la fête, on est déjà dans le coup, alors on n'a pas forcément envie de se dire, il y a des
pauvres. Ouais, puis il y a quelqu'un.
Allez, viens.
Ouais, il y a des gens que quand ils commencent à te raconter leurs problèmes, moi je suis dans une écoute empathique, machin, ils commencent à te raconter leurs trucs, c'est bon. Bon, la prochaine, on continue la prochaine fois, quoi. Ça veut dire, des fois c'est lourd, t'aimerais passer à autre chose, quoi. Ça va. Ça va. Donc, c'est du courage, en vérité. C'est du courage de faire participer ces gens-là. Continuons. Et là, maintenant, c'est la dernière halakha relative à Pourim. Kol sifre anevi'im. וכל הכתובים עתידים להיבטל למות המשיח, חוץ ממגילת אסתר. הרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה, וכהלכות של תורה שבעל פה, שאינן בטלים לעולם. Tous les livres des prophètes et les hagiographes seront annulés au temps messianique, sauf le rouleau d'Esther, qui sera éternel comme les cinq livres de la Torah. C'est vraiment trouver l'erreur.
En fait, je veux dire, c'est mitva dans l'Olam Hazeh et à la lecture, même.
Comment ?
J'ai pas compris. Vous venez de dire que c'est du mitva de.
Tous les. Voilà. Lorsqu'il y aura le Mashiach.
C'est insignifiant comme histoire, mais il y a
comment ?
C'est presque insignifiant quand on voit ce que certains prophètes ont fait.
Ouais, c'est bizarre ce qu'il dit. Le quand il y aura les temps messianiques. Isaïe, Ézéchiel, machin, les psaumes de David, ouais, ça sera de côté. Ça sera de côté. Il restera les cinq livres de la Torah et le rouleau d'Esther, éternel. Il dit Veke alachot chez le Torah, chez Baalpé, chez Nametim Leolam. Et aussi comme les lois de la Torah orale qui sont éternelles. Donc, cinq livres de la Torah. Les commentaires oraux des cinq livres de la Torah et rouleau d'Esther, point, Nekouda. Le reste, ça sera mis de côté. Ça n'aura plus aucun intérêt. Ça, c'est incroyable.
Et ça veut dire que
c'est comme si on te dit, au temps messianique, il ne restera plus que les cinq livres de la Torah. Et les œuvres complètes de Ducobu, quoi. C'est. Non, c'est-à-dire. Trouver l'erreur. Je veux dire. Ouais, et, oui, c'est bon. Chacun ses références, aucun rapport. C'est. On voit pas le rapport. C'est. Trouver l'erreur, c'est interdit aux juifs et aux facteurs. Pourquoi les facteurs, quoi. C'est. On voit pas. Comment ?
Moi je vois le rapport. C'est parce que le rouleau d'Esther c'est un témoignage comme quoi on a toujours voulu nous massacrer au cours de l'histoire. Et c'est la première fois où on a vraiment voulu complètement faire disparaître le peuple juif dans son intégralité.
Oui.
Voilà.
On a la Megillat
HaShoah. Et alors ?
Maintenant on a la Megillat. Enfin la Megillat HaShoah elle n'est pas rentrée.
Megillat HaShoah, qu'est-ce que c'est Megillat
HaShoah ? Non mais je sais pas, je demande si ça existe.
C'est
quoi ? Non, ça n'existe pas, mais non, moi je comprends pas ce que vous dites.
La Megillat HaShoah.
Je m'ai entendu parler.
Il y en a une qui existe, qui a été créée par le Megillat HaShoah, mais qui n'est pas passée encore dans la religion.
Oui. D'accord. Et alors, en quoi est-ce fondamental ? de savoir au temps messianique qu'on a voulu nous exterminer et qu'on s'en est sorti. Pourquoi c'est...
C'est témoignage du fait que on s'en sort toujours, quoi, en fait. C'est un témoignage d'espoir extraordinaire.
Mais on sera au temps messianique et on...
Ouais, c'est vrai, ça.
Mais c'est pareil dans
la Torah. C'est the end. Tu vois, le soleil se couche sur la lagune, sur le Lido, là-bas, à
Venise. Mais alors pourquoi nous raconter Yetziat Mitzrayim en même temps? C'est pareil. Pourquoi on garde Yetziat Mitzrayim
dans... Non, alors Yetziat Mitzrayim, ça sera secondaire au temps messianique, justement.
Yetziat Mitzrayim, c'est dans Mitzrayim Bechar, comme tu
le fais. C'est vrai, mais comme on dit, le soir de Pessah, ça sera secondaire. Ça sera secondaire.
Mais dans les temps messianiques, il n'y aura plus de mitzvot?
Si, il y aura les mitzvot, pareil.
Donc si la mitzvah devient la Megillah, elle persiste, on est obligé de garder la Megillah?
Non, mais ça, c'est une mitzvah rabbinique. À la limite, tu pourrais dire que cette obligation rabbinique s'arrêtera. Ça, c'est pas un problème.
Ah, donc autant mitzvah, il n'y aura plus l'obligation de lire la Megillah.
Peut-être qu'il n'y aura plus l'obligation de lire la Megillah, mais le texte sera canonique. Ici, on ne parle pas de l'obligation de la lire, on parle du texte au niveau canonique. Il y aura plein de mitzvot rabbiniques qui ne s'appliqueront plus. Je reprends et on termine le paragraphe. Kol sifrei hanevi'im vekol haktuvim atidim libatel limot hamashiach chutz memigilat Esther. Tous les livres des prophètes et des hagiographes seront annulés au temps messianique, sauf le rouleau d'Esther, qui est éternel comme les cinq livres de la Torah et comme les lois de la tradition orale, qui ne sont jamais annulés. Va falpi shekol zichron atzarot ivatel, bien que tous les souvenirs des malheurs seront caduques, shenema, ki nishkeru atzarot arishonot vechinisteru me'enay, seront oubliés, les malheurs premiers seront cachés de mes yeux. Yemea purim lo yevatlu, les jours de Purim ne seront jamais annulés, shenema, ces jours de Pourim-là ne partiront jamais du sein des Juifs et leurs souvenirs ne s'arrêteront jamais de leur descendance. Point. Hugues, Oum Papa a parlé.
C'est pas à cause du miracle qui a eu lieu justement que la situation devait aller dans un sens. On devait tous nous massacrer et ça a été retourné à la dernière minute. La dernière minute, c'est au contraire les Juifs après qui se sont vengés de leur
venue. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est super. Mais de là, éternel, qu'est-ce qu'il y a d'éternel? Non, mais ce que vous dites...
Parce que c'est tellement miraculeux.
Oui, c'était miraculeux, mais c'était très très miraculeux. Mais qu'est-ce que ça pourra enrichir l'humanité au temps messianique où tout sera super super cool? Qu'est-ce qu'il y a de absolument fondamental dans ces jours de Pourim, dans ce rouleau d'Esther? Surtout, nous savons que le rouleau d'Esther, il n'y a pas explicitement le nom de Dieu. Donc, on pourrait dire, c'est un livre de seconde zone. Hein? D'ailleurs, prenons par exemple un sofer qui se fait la main, un sofer, quelqu'un qui commence à écrire. Eh bien, il ne va pas écrire des mezouzot ou des téfilines, parce que dès qu'il y a une erreur dans les téfilines et mezouzot, on ne peut pas corriger. Ça demande vraiment une compétence hors pair d'écrire des mezouzot et des téfilines. Parce que vous savez, on ne fait pas forcément des photocopies hein, de mezouzot. Pas forcément. Bon. Voilà. Bon, donc en général, c'est des gens qui écrivent, mais c'est comment on dit, il faut les écrire Kessidran. Si tu as fait une erreur, tu ne peux pas retourner en arrière. Donc c'est vraiment ça. Et un Sefer Torah, il faut écrire le nom de Dieu, Bekdusha, Betahara, avec intentionnalité. Donc c'est un travail qui demande une grande intériorité, une grande concentration, très particulier. Alors, les Sofrim, première chose qu'ils écrivent, Megillat Esther, parce qu'il n'y a pas le nom de Dieu. Tu te fais la main en écrivant des Megillot. Bon, en tenant, non, attention, Megillat Esther, comme le Sefer Torah. Bon, on sait qu'on aime le goût du paradoxe. Mais bon, à part ça...
C'est plus pour le contenu que pour le contenant, quoi.
Qu'est-ce qu'il y a de vraiment... éternité du livre des sœurs. Éternité du livre des sœurs.
Bah dites-nous, dites-nous.
Comment ?
Dites-nous.
Ça y est, on n'en peut plus, là. Comment ? On a la langue au chat.
C'est la semaine prochaine. Non, vraiment, non, mais je le dis là parce que c'est trop bizarre. Franchement, c'est quand même... au risque de me répéter, c'est...
Oui, c'est quand même Dieu qui est partout, derrière chaque acte banal. C'est Dieu qui est partout. Et on croit que le roi, je sais pas, l'histoire du roi avec la reine, tout derrière chaque... n'importe quel acte, il y a Dieu derrière. C'est quand même...
Mais tout le temps, ça partout, là.
Non, mais en général, c'est...
Mais tu vois ça, oui, ce que vous dites est juste, tu vois ça dans... C'est comme nous, on ne connaît pas, de toute façon, le nard, c'est fastoche. Là, on joue sur du velours, on ne connaît pas le nard, on ne connaît pas. Mais si vous lisiez un peu le nard, vous verriez le nard, c'est-à-dire les prophètes. Les prophètes, tu verrais ça ailleurs aussi. Tu vois les prophètes Eliaou, le prophète Élie, le prophète Élisha. Tu vois aussi que Dieu est partout, tu vois que Dieu intervient, le prophète, le roi Achav, il se moquait, il disait, c'est écrit dans la Torah que si on fait l'Avodazara, Dieu fera qu'il n'y aura plus de pluie. Mais moi je fais l'Avodazara, avec moi l'Avodazara, c'est le culte officiel, et on se débrouille bien, tout va bien. Le prophète, il dit, le prophète Élie, il a dit, qu'est-ce que tu racontes là? Eh bien à partir du moment, il ne va plus pleuvoir. Il ne va plus pleuvoir. Et il n'a pas pu plus jusqu'à ce que le prophète Élie décide que maintenant il va pleuvoir. Pendant des années, il n'y a pas eu de pluie. Bon, mais c'est pas mal non plus. En disant, attends, mais c'est dit que laisse tomber. Vous connaissez ces passages-là? Oui. C'est super, extra. Non, attends, mais c'est dit que laisse tomber. Pourtant, je trouve ça bien, moi. On voit que là aussi, Dieu est partout.
Il y a quelque chose de... On raconte quelque chose de légendaire, très légendaire, ce qui est nard, alors qu'il n'y a pas plus quelque chose de plus qui parle plus à l'homme qu'un livre d'Esther.
D'accord.
Tout nard, ça parle pas, c'est beaucoup plus lointain.
D'accord. Alors on va, on va aller. C'est bien ce que tu dis, Menachem. On va aller un peu dans ton sens. J'aimerais vous rapporter une halakha dans Rambam. Sur les temps messianiques. Je vous lis Rambam, donc 11e, j'ai pas fait de photocopie, ces trois lignes, pas fait de photocopie, donc c'est 11e chapitre d'Halachot des rois. Donc à la fin de tout le Mishneh Torah, Rambam, la dernière partie, c'est les lois relatives au roi, et à la fin des lois relatives au roi, il parle du Mashiach. Alors c'est quoi le Mashiach, le Messie, qu'est-ce que c'est? Ça sera un roi, dit Rambam. Al yale al datra, Shameler HaMashiach, Tsarir Lasot, Otot Umoftim, Umechadesh Devarim Baolam, Umechaye Metim, Vekayotse Bedvarim Elush, Atipshim Omrim. Il ne faut pas que ça monte à ta pensée que le roi, Ouin, Mashiach se dit Ouin, devra faire des signes et des prodiges, et faire des choses qui sortent de l'ordre du monde, comme par exemple faire revivre des morts, des choses de ce genre-là, comme les imbéciles le disent. Non. En adabarken. C'est pas ainsi. Share Rabbi Akiva, Chacham Gadol Mechorme Mishnah Aya. La preuve. C'est que Rabbi Akiva était un des plus grands maîtres de l'époque de la Mishnah. Ve'u Aya Nose Kelav Shelben Koziva Ameler. Et il était le porte-étendard de Bar Korba, le roi. Ve'u aya omer alav shua meler haMashiach. Il disait sur Bar Korba que c'était le Mashiach. Ve'dima u ve'chol rorme doro shua meler haMashiach atchene rag bevavonot. Et tout lui et tous les sages de sa génération pensaient que Bar Korba était le Mashiach, jusqu'à ce que, finalement, il a été tué par nos fautes. Kivan Shenerag Noda Sheno Mashiach, quand il a été tué, on a compris que ce n'était pas le Mashiach. Velo Shalou Memeno Chachamim Lo Od Velo Mofet, et n'ont demandé à Bar Korba ni signe ni miracle. Ve Ikar Alvarir Kacha M. La base, Shatora Azot, En Chukia Mishpatea Mishtanim Leolam Ulon Meolamim. Les lois de la Torah et ses décrets sont éternels. En Mosifimu Alem Velo Gorimem, ni on rajoute ni on soustrait. Ve Kol A Mosif. Ogorea o shigila pani batora areze bevadai racha vapikoros. Donc il dit que la Torah nous parle qu'il y a de nouveau un roi. Mais comment on saura que ce sera le roi, que ce sera le Mashiach? Rambam nous dit dans la halakha d'Alet, s'il se lèvera un roi qui sera investi dans la Torah et les mitzvot comme David, son ancêtre, il forcera tout Israël à aller dans la Torah, à payer de l'argent pour la Torah, fera les guerres de Dieu, a priori, ce sera le Mashiach. S'il continue, il réussit, il construit le Beth Aminash, c'est le Mashiach. C'est-à-dire, s'il fait ce que doit faire le Mashiach, c'est-à-dire de faire que tous les Juifs aillent dans la Torah, s'investissent dans la Torah, et qu'il construira le Beth Amikdash, il y aura de nouveau les corbanotes, il y aura le retour de la justice dans le peuple juif, avec le Sanhédrin, etc. Ça sera le Mashiach. Comment tu sauras que c'est le Mashiach? S'il fait le travail du Mashiach, on saura que c'est le Mashiach. Mais il n'y aura pas du tout à demander au Mashiach qu'il fasse des prodiges. C'est pas du tout, la Torah elle est éternelle. Les prodiges n'apportent rien. J'ai vu des commentateurs sur Rambam, en particulier un maître contemporain, Rav Shlomo Volbe, a développé dans ses cours qui sont rapportés dans son livre Le Aléchour, il dit que la dimension des temps messianiques ne sera pas une dimension de miracle.
Peut-être une amorce de réponse, c'est que la Megillat Esther, c'était ça, par le miracle, il s'est fait par la nature, par la sans miracle dévoilé, il s'est fait...
Alors voilà, c'est ça ce que nous allons essayer de travailler. C'est-à-dire que la dimension des temps messianiques ne sera pas la dimension, si vous voulez, ça ne sera pas Jurassic Park 4, ouais, le retour des tyrannosaures, voilà, c'est pas ça. C'est pas les effets spéciaux, etc. C'est, il y aura la dimension... Rav Volbe a développé dans le Aléchour sur ce Rambam, que ça sera la dimension humaine radicale. Ce que tu dis, Menachem, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les livres des prophètes où on voit des miracles explicites, des miracles, on voit le prophète, encore plus le prophète Elisha que son maître, le prophète Élie. Elisha fait des... vous savez ce qui est dans les évangiles, relisons les évangiles, vous avez tous lu les évangiles, machin, ouais, bon. La multiplication des pains, le mort qui ressuscite, etc. Ça, c'est chez nous. C'est incroyable que c'est peu connu. Mais le prophète Elisha, vous lisez dans le livre Melachim Bet, vous voyez, le prophète Elisha, il fait des miracles qui ont été repris après par... c'était un remake, ouais. Ça a été repris, la multiplication des pains, le faire revivre les morts, etc. Mais ça, ça se trouve chez nous, dans le prophète Elisha. Et donc, il y a des miracles invraisemblables, comme tu as dit, qui des contes et légendes, comme ça, les légendaires. Ça, c'est une nécessité. C'est très très important, c'est fondamental. Mais, Yemot HaMashiach, la dimension éternelle, n'est pas dans cette dimension. Rambam dit, au temps messianique, on ne demandera pas des miracles. Ce n'est pas la base, ce n'est pas les miracles. Mais alors c'est quoi? Alors on va voir, il y a des années où, sur semaine après semaine, on a étudié Megillat Esther avec les commentateurs. Alors bon, comme je l'ai fait plein d'années, cette année j'ai pas pensé le faire. Par contre, on va voir un passage. On va voir un passage qui me semble met en relief ce point de manière très très précise. Prenez à la fin de Shemot, il y a la Megillat Esther. Là aussi, vous avez des livres. À la fin de Shemot, demandez le programme. Ah, c'est pas le bon. Alors, donc, à la fin de Shemot. Du livre de Shemot. C'est dans Megillat Esther.